Bonsoir. Décès d'un détenu du pavillon 4B hier lundi à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. La fondation Bill Clinton dénonce ce fait. Selon le président de cette ONG, l'homme a perdu la vie après avoir été violemment tabassé pour possession d'un téléphone portable. Emmanuel Adoukol exige l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Dans la même optique, il dénonce les violations des droits de l'homme dont sont victimes certains détenus dans les milieux carcéraux ainsi que dans les cachots clandestins. Cependant, il y a quelques mois, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutsamba, avait annoncé des réformes qui visent à transformer les prisons congolaises en espaces conformes aux standards internationaux et à garantir un traitement humain et sécurisé des détenus. Comment analyser cette situation? Où en est-on avec la mise en œuvre des réformes visant à améliorer les conditions carcérales en RDC? Nous en parlons avec Emmanuel Adoukol, qui est président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP en sigle. Emmanuel Adoukol, bonsoir.
Bonsoir.
Avec moi dans ce studio, Désiré Simbi Tchambali, il est président du groupe d'experts pénitentiaires de la RDC. Désiré Simbi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Tous nos efforts, voulais-je dire, pour avoir le ministère de la Justice dans cette émission sont restés vains. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sur la 104.9. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, décès d'un détenu du pavillon 4B, lundi à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. La fondation Bill Clinton a dénoncé ce fait. Selon le président de cette organisation, l'homme a perdu la vie après avoir été violemment tabassé pour possession d'un téléphone portable. Emmanuel Adoukol exige l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame afin que les auteurs soient poursuivis. Suivez la déclaration ou la dénonciation d'Emmanuel Adoukol, président de la fondation Bill Clinton, au micro de Benjamin Moudoumbi.
À la prison centrale de Makala, ce matin, au pavillon 4B, il y a un détenu trouvé avec un téléphone. Le directeur de prison a donné l'ordre pour qu'on le tabasse. Et après avoir tabassé, le monsieur est mort parce qu'on a trouvé avec un appareil séminaire. Si tel était le cas, pourquoi on n'a pas récupéré l'appareil si ça a des mesures disciplinaires, soit être prises au lieu de taper? Nous demandons une enquête. Parce que le ministre, la justice, il a l'habitude de dire que personne est au-dessus de la loi. Nous demandons pour mettre sous pied une enquête. Si est vrai que c'est le directeur de prison qui a donné l'ordre, qu'il soit sanctionné par la loi. Et nous continuons aussi de demander que les droits de l'homme soient respectés, surtout les cachots clandestins. Parce que là aussi, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont morts au jour le jour. Parce que c'est un endroit qui est interdit à tous les visiteurs. Et cela viole l'article 18 de la Constitution congolaise, à laquelle tous ils sont prêtés seulement devant cette constitution.
Alors, Emmanuel Adoukol, vous êtes avec nous dans cette émission justement pour parler de cette situation, non seulement à la prison centrale de Makala, mais aussi dans les milieux carcéraux de la RDC. Alors, vous dénoncez la mort ou le décès de ces détenus du pavillon 4B. Vous dites qu'il a perdu la vie, après avoir été violemment tabassé pour possession d'un téléphone portable. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les directeurs de la prison?
Bon, les directeurs
Le nouveau directeur qui est dégagé demandait l'audience plusieurs fois pour raconter sans suite. Parce qu'on ne peut pas corroborer avec une personne. Si vous demandez l'audience, vous ne le recevez pas. Les anciens directeurs, avant l'évasion, soit disons tentative d'évasion, on était en bon terme, on était en collaboration et tout. Mais après son départ, celui qui vient d'Alger, il vient de S. Katanga. On a mis de S. Katanga, elle est venue, nous avons demandé l'audience pour la rencontrer. Et ça suit.
Alors, pour ce cas précis, pour le cas précis de ces détenus qui est mort ou décédé à la prison centrale de Makala, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec les autorités de la prison? Peut-être pas le directeur, il a des adresses, que vous avez essayé de contacter, les autorités de la prison?
Oui, avant tout, nous avons notre façon de faire les enquêtes. Nous avons initié une enquête auprès des prisonniers eux-mêmes et qui nous fournit l'information. Bon, parce que si nous posons les questions à le directeur des prisons, nous connaissons sa réponse. Bon, nous commençons que c'est lui-même, selon l'enquête, nous avons eu les sources de 3 ou 4 prisonniers qui ont confirmé que c'est sur l'ordre du directeur de prison que cette mission était tabassée jusqu'à mort. Voilà la raison dans laquelle nous demandons d'une enquête, soit celui ou une autre personne, nous demandons une enquête pour déterminer la cause. Parce que ce n'est pas la première fois où un détenu est tabassé à mort. Plusieurs fois nous avons eu l'information et seulement pas lui seulement, beaucoup de directeurs qui sont étaient à la tête de prison centrale de Makala ou bien ailleurs. C'est ça leur méthode. Leur méthode, comme on sait que si quelqu'un est mort, on peut les bien faire parce qu'ils sont protégés. Donc, c'est ça. Mais cette fois, nous voulons qu'il faut une mesure, parce que je connais le ministre de la Justice, c'est une mesure qui est égale à lui-même, qui respecte la loi. Et nous profitons de cette occasion pour lui demander de, en tout cas, faire une enquête sur cette affaire, parce que dans un état de droit, lorsqu'un détenu est en prison, c'est vraiment c'est trop.
Mais depuis l'annonce des réformes par le ministre de la Justice, est-ce qu'on a connu ces gens des cas dans les maisons carcérales de la RDC?
Bon, ainsi à Kinshasa, là j'ai dit non, c'est le premier cas qu'on vient d'avoir. Mais ailleurs, madame, comme vous savez, les prisonniers, les femmes prisonniers qui étaient brûlés vivants dans les prisons de Mouzenzé, à Goma, lorsque le ministre de la Justice était parti là-bas, il avait constaté qu'il y avait beaucoup de détentions irrégulières. C'est pour cela que si vous suivez les demandes du ministre de la Justice, il avait même donné l'ordre pour en libérer certaines des gens. Donc, je peux vous dire que les femmes qui étaient brûlées vivantes, à laquelle nous continuons à demander les enquêtes pour déterminer qui sont les auteurs de cet incident, 80% étaient des détenus préventifs. C'était des détenus préventifs. C'est une raison dans laquelle le ministre, bien que c'est viole la loi, il a donné l'ordre de ne pas envoyer des gens en prison en attendant pour diminuer le nombre avant qu'on envoie des gens. Parce que Makala, c'était venu, ou bien les autres prisons, c'était venu comme un dépôt pour certains magistrats pour avoir l'argent. Et lorsque le ministre a constaté que c'est bien comme un marchandise, une petite infraction, on envoie là-bas pour avoir l'argent, il dit non, top. Mais ce qui est vrai, c'est bien aussi la loi. C'est bien aussi la loi à laquelle nous déplorons. Et on fait.
On va vous redonner la parole, Emmanuel Adoukel. Le temps pour moi de donner la parole aussi à Désiré Simbi, qui est président du groupe d'experts pénitentiaires de la RDC. Désiré, face à ce tragique événement survenu à la prison de Makala, quelle est votre réaction, quel sentiment cela suscite en vous?
Merci beaucoup, madame. Je salue mes co-débatteurs. Le premier élément, c'est que le débat d'aujourd'hui porte sur le respect des droits humains en milieu pénitentiaire. Ça, c'est l'élément principal. Parce que le cas des coups qui seraient portés sur les détenus, justement, c'est une violation des droits, spécialement l'intégrité physique de la personne humaine. Et là, je voudrais relever que l'universalité des droits de l'homme est reconnue d'abord par les Nations Unies à travers la charte, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, et surtout ici, la Convention contre la torture et les pactes qui ont suivi. Sur le plan de la RDC, la Constitution, à son article 16, parle déjà de la sacralité de la personne humaine. Et cette sacralité se traduit justement par le respect de sa personne, de son intégrité physique et morale, parce que l'article 16, à son alinéa 4, insiste justement sur les problèmes de l'intégrité physique. Donc, le cas rentre là-bas. Il y a plusieurs violations des droits des détenus. Et lorsqu'on examine beaucoup de rapports d'ONG qui font des visites dans des prisons, vous allez voir qu'il y a plusieurs violations, y compris l'intégrité physique. Et ce qui fait mal, si c'est vrai que le cas est arrivé, c'est de voir que non, il y a eu une instruction pour que l'on puisse porter des coups. Donc il existe beaucoup de cas où les détenus peuvent se battre entre eux ou bien on peut porter l'intégrité. Mais ici, ça devient plus grave lorsqu'il y a une instruction. Si c'est vrai, le rapport que l'ONG a produit. Par rapport à cela, on croit souvent que la responsabilité par rapport aux détenus incombe seulement aux magistrats. Mais le personnel pénitentiaire a une grande responsabilité. Et notamment de garder ces personnes-là dans le respect des droits de l'homme. Et cela peut entraîner, cette responsabilité entraîne justement des sanctions lorsqu'il y a eu abus. Donc, si un personnel pénitentiaire, de surcroît le directeur de la prison ou telle autre autorité, il faut qu'on applique la loi comme il le faut pour que ces actes ne puissent pas revenir. Parce qu'on confie à l'autorité pénitentiaire, on confie les détenus pour les garder dans le respect des droits de l'homme et les aider à rentrer dans la société avec un bon comportement. Donc c'est autant de violations qui ne peuvent pas permettre à ce que la personne soit respectée.
Alors cet incident peut-il révéler un problème plus profond au sein du système pénitentiaire congolais? Ou c'est juste un cas isolé qui peut arriver
Je ne crois pas que ce soit un cas isolé. C'est pourquoi, comme peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de solution, mon co-débatteur avait déjà proposé l'enquête. Il faut que l'on puisse se rendre compte si c'est vrai. Je crois que depuis que je connais la vie de nos prisons, ça fait environ 20 ans que nous sommes sur cet aspect. Et il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, mais aujourd'hui, c'est le cas qui est arrivé. Je sais que depuis l'arrivée du nouveau ministre d'État, il n'y a pas encore un cas pareil qui a été signalé. Mais on peut trouver d'autres cas qui sont semblables, même si ce n'est pas le directeur qui a donné instruction. Et donc, cela rappelle justement, comme vous avez dit, des mécanismes de contrôle que chaque décès, que chaque lamentation puisse vraiment inciter l'autorité à mener une enquête. Et d'ailleurs, une enquête à laquelle il faut associer d'autres partenaires pour la transparence, pour que l'on puisse détecter si vraiment les personnes ont été marquées dans leurs droits par une autorité responsable. Je ne reviens pas aux événements qui s'étaient passés à Makala le 1er 2 septembre, tout ça, et parce que c'est là où il y a même plusieurs violations que je souhaiterais un jour assister à un procès et contre tous ceux-là qui ont tiré sur les détenus. Parce que le détenu, c'est une personne humaine qui, juste, n'a que la privation de la liberté d'aller et venir et certaines restrictions sans porter atteinte à ses droits fondamentaux.
Et lorsqu'un détenu ne respecte pas les règles ou les règlements de la prison, qu'est-ce qu'on fait?
Exactement. Ça, c'est une très bonne question. Lorsque un détenu parvient à violer une règle quelconque de la détention, la première chose, c'est de regarder le règlement d'ordre intérieur. Est-ce que la prison a le règlement d'ordre intérieur? Je vais vous dire que la défunte ordonnance 344, je dis défunte ordonnance parce que la loi de 2023 a abrogé cette ordonnance, prévoyait à l'article 46 des éléments d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être élaboré par chaque prison. Parce que chaque prison a ses réalités et il faudrait avoir un règlement d'ordre intérieur. Au-delà de ça, dans le règlement d'ordre intérieur, il y a des instructions strictes où lorsque le détenu a commis une faute, il y a des degrés de faute, mais pour sanctionner, il faut une commission de discipline qui doit s'asseoir pour examiner, et le détenu a les droits de la défense au sein de cette commission qui doit être constituée. Je rappelle ici que le règlement Mandela de 2015 interdisent qu'on donne une fonction à un détenu d'avoir une fonction disciplinaire. C'est la règle 40 des règles Mandela qui interdisent, et la RDC fait partie. Donc, il y a tout un mécanisme de défense, parce que peut-être on peut trouver, ce n'est pas peut-être la seule personne, si on rentre dans le cas, c'est pas la seule personne qui avait le téléphone. Nous savons comment il y a des téléphones par-ci, par-là.
Qui circulent dans les prisons.
Exactement, et les instructions interdisent justement de détenir un téléphone personnel. Mm-hmm. Si le détenu veut téléphoner, il doit saisir le directeur pour téléphoner sur le téléphone de l'établissement. Sur le téléphone de l'établissement, en présence d'un surveillant qui doit écouter toute la conversation. Donc il y a des règles d'encadrement. Et ces règles doivent venir d'où? De la réforme. De la réforme qui est proposée. Ça fait plus de 5 ans que nous avons aidé les gouvernements à élaborer les textes pour la réforme, mais qui sont... Chaque ministre arrive, il prend d'autres priorités, il jette ça à côté. Et aujourd'hui, il y a un problème de régime pénitentiaire. Il y a la loi qui est sortie en 2023, qui donne des principes fondamentaux pour l'administration pénitentiaire, mais il faut des décrets de mise en œuvre qui dorment là depuis plus de 5 ans. On vient avec des priorités qui peut-être trouvent un fondement plus politique que le cadre légal, et justement on tombe dans des choses parce qu'il n'y a pas de mécanisme qu'il faut mettre en place.
Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo, comment vous analysez cette situation?
Merci pour la question. Comme l'a dit, je salue également mes co-débatteurs. Respecter les droits des détenus, c'est ne pas faire preuve de faiblesse. C'est affirmer la force de l'état de droit. En République démocratique du Congo, comme vous le savez, les prisons sont devenues des véritables zones de non-droit. C'est un secret pour personne. La surpopulation, l'insalubrité, la violence, la lenteur, le lenteur judiciaire, les détenus vivent dans des conditions inhumaines, bien que la Constitution prévoit des mécanismes de protection, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Être détenu, ce n'est pas perdre tous les droits. Il a le droit aux soins médicaux, il a le droit à la protection de son intégrité physique. Les ordres qui viennent de ce type-là, tel qu'on a entendu notre collègue évoquer tout à l'heure, c'est de l'arbitraire. Et ça devait être sanctionné. Ça devait être sanctionné. C'est dommage que ça arrive au moment où on parle de réforme de la justice. Mais de quelle réforme on parle? Ça fait plusieurs années que nous partageons. Le ministre Mwamba, Tambo Mwamba, à l'époque, a fait des états généraux de la justice. Là, nous venons encore de vivre les derniers états généraux de la justice. Le résultat, finalement, c'est le suivant. Et c'est le contribuable congolais qui aura dépensé de l'argent pour rien. Tenez, madame, une surpopulation alarmante dans nos prisons. La prison de Makala, par exemple, la Kinshasa, la plus célèbre des prisons, conçue pour environ 1500 détenus, en compte parfois plus de 8000, parfois plus de 1000, 10000. Et tout cela crée des conditions de proximité qui peuvent créer des violences. Et c'est comme ça que je commence par dire que c'est devenu presque des zones de non-droit, où il y a de l'arbitraire. La surpopulation-là ne se justifie pas. Parfois, les détentions préventives sont prolongées inutilement. Une injustice, dans le silence. Ça ne s'explique pas. Un système pénitentiaire presque à bout de souffle. Hein? Les gardiens qui sont dans ce système pénitentiaire sont vraiment sous-effectifs. Moins formés, moins bien formés. Ça pose des problèmes. Comment quelqu'un qui est censé protéger les prisonniers peut donner des ordres si cela s'avère correct et que les enquêtes qui seront menées nous révèlent que l'ordre a été donné par celui-là qui est censé protéger. Mais là, finalement, où est-ce que nous irons encore? Où est-ce que nous irons encore lorsque nous serons détenus? Mais ce qui est tiré dans cette affaire, les députés, tant provinciaux, nationaux, les sénateurs, s'intéressent à des contrôles dans les entreprises. Jamais on le voit dans les prisons. Mais quand on les arrête dedans, ils tombent malades du coup. Voilà. Mais le leadership politique s'intéresse là où il peut piquer de l'argent facilement, mais là aussi où il y a nos compatriotes qui sont entrés en collision ou en conflit avec la loi, se retrouvent en prison. Les conditions de détention ne sont pas humaines. C'est des conditions presque inhumaines. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas parler de la justice. C'est pourquoi, tout à l'heure, votre compatriote qui parlait tout à l'heure des réformes, mais comme chaque ministre vient à son agenda, la preuve est que vous avez invité les autorités de la justice dans le cadre de la transparence, qui devaient être là pour nous éclairer ce qui arrive. Il faut construire, peut-être que nous arriverons au moment de proposer des pistes, nous pourrons quand même donner d'autres pistes qui peuvent aider. Parce que nous sommes dans une incapacité de reconstruire, la surpopulation est totale. Alors, comment faire pour que ceux qui sont en prison, que certaines de leurs libertés, ils ne sont privés que de la liberté de circulation. On a réduit leur mouvement. Mais il y a un règlement. Quand quelqu'un est retrouvé avec un téléphone, il y a un règlement. Est-ce que le règlement prévoit qu'on puisse demander à tous les prisonniers de tirer sur un simple individu et de cette manière-là? Il reste déjà à dire de la souffrance, il est privé de sa liberté de circulation, mais on inflige encore de la torture. Ils sont condamnés. Elle a déjà souscrit à des conventions internationales contre la torture. Voilà autant d'éléments qui font que nous restons inquiets si la volonté politique réelle de réformer la justice, mais surtout les milliers incarcérales de notre pays.
Alors, vous Jonas Tchombela, pensez-vous que...
60%.
Alors, je disais que vous pensez que les prisons congolaises s'éloignent des standards internationaux en matière de traitement des détenus?
Mais je crois que c'est, je vous ai dit tout à l'heure, madame, que c'est, les prisons congolaises sont devenues des véritables zones de non-droit. Qu'est-ce qui peut donner l'ordre à ce qu'on puisse rouer sur un simple individu de cette manière-là? Donc, le standard, nous sommes loin du standard international. La surpopulation, la proximité, les saletés, les conditions même de vie, les repas même qu'on donne, nous sommes loin de la réalité internationale. Mais nous avons des autorités qui voyagent dans ce pays, qui visitent, qui ont des temps aussi dans des prisons de la communauté internationale. Ma foi, aucun modèle n'est calqué. Tous les ministres qui passent, on nous dit qu'on va construire des prisons modernes, on va faire ceci. Il a fallu que la MONUSCO intervienne en dolo pour qu'on ait les conditions de nos militaires qui sont incarcérés là-bas, que ça améliore. Mais est-ce que l'État congolais se rend compte de cela? Mais eux-mêmes, quand ils se trouvent dans cette prison, ils se rendent compte. Même quand ils y sortent, ils ne pensent même pas comment faire pour que les conditions difficiles qu'ils ont vécues puissent s'améliorer pour les restes qui sont restés là-bas. Donc nous sommes loin de la réalité internationale, c'est des zones de non-droit.
On va écouter aussi ces Congolaises et Congolais qui ont un avis à donner par rapport au thème de ce soir. Le standard est ouvert, me signale la réalisation. On va se rendre donc à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
Je suis inspecteur Jean Kibifong Amalumalu depuis Kisangani, province de la Tchopo. Le décès tragique de saint détenu est un énième rappel brutal de la manière dont les droits de l'homme sont systématiquement bafoués dans nos milieux carcéraux. Dans notre pays, il semble malheureusement qu'ils considèrent les détenus comme des individus ayant perdu toute humanité et donc tout droit fondamental. Il est inacceptable que la possession d'un simple téléphone portable puisse conduire à une mort violente en détention. C'est un échec total du système judiciaire et pénitentiaire censé garantir un traitement digne et humain. Un détenu reste une personne avec des droits.
Alors, Emmanuel Adoukol, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de cet auditeur qui nous appelait de Kisangani?
Oui, madame, je suis d'avis avec lui. Mais comme vous savez que même la Bible nous a dit qu'aimer un prisonnier, parce que Jésus-Christ même dit qu'il fut un prisonnier. Donc, chaque être humain qui n'a pas le souci d'un prisonnier, c'est un diable. Madame, je suis en train de vous dire que nous avons commencé à travailler pour cette prison pendant 30 ans. À l'époque du Dido, il y a des gens qui quittent à la cité pour aller chercher une nourriture à la prison centrale de Makala. Il y avait le Croix Rouge qui donnait les nourritures, le savon, le tout. Mais lorsque le Croix-Rouge, ça va constater que le magistrat commence à utiliser cette prison comme le dépôt, et c'est là que le Croix-Rouge a retenu. Mais aujourd'hui, le Croix-Rouge commence à aider le prison de Ndolo. Mais le prison de Ndolo, on ne parle pas beaucoup, mais je vous dis que ce qui est en train de passer à la prison de Ndolo, c'est très grave.
Justement, vous avez dénoncé les violations de droits de l'homme dans les cachots de la RDC, mais aussi les cachots clandestins.
Tout à fait, madame. L'article 18 et le 16, je parle de l'article 18, tous les magistrats, tous les généraux, les chefs de sécurité, même le président de la République, lui-même, le premier ministre, tout le monde sont prêtés récemment devant des constitutions congolaises du 18 février 2006. Madame, l'article 18, il nous dit, vous ne pouvez pas prévenir la liberté d'une personne en dehors de 48 heures sans exercer son avocat, ni sa famille de rendre la visite. Mais, à l'heure actuelle, je vais vous dire que dans tous les cachots, de l'année, les DIMIA, les CNS et de mon passe, prêt. Madame, je prêt. Je vous dis que, et si vous voyez même à la DIMIA, il y a un sous-sol où des gens là. Il y a même quelqu'un qui était là, les morts. Ça fait 3 jours, des gens qui étaient en tout, ils ne savent pas que le monsieur est mort. Et elle s'est oubliée qu'elle est dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est siégée, et elle a une obligation de respecter les droits de l'homme. Parce que, comme je vous avais dit, la fois passée, les charités commencent par soi-même. Madame, le président de la République, 2018, lui-même était le premier à déplorer. Il dit, moi, c'est ce que je dis, Chirombo, si j'ai eu le pouvoir, le premier jour d'affaire, tout ce que je où mon peuple est en train de souffrir. Nous avons applaudi, nous avons applaudi. Ça, c'est un serment qui a fait devant le peuple congolais, devant le comité international. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Bon, ce n'est pas tard, comme j'ai dit là. C'est quelqu'un que j'ai connu. Je l'ai connu personnellement. Même pas ici, mais ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a volonté. Mais nous demandons, ce n'est pas tard. Parce que dans tout ce cachot canestin là, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Et vous savez qu'il y a même une dame là, américaine, si je ne trompe pas son nom, Jézène Bissima, qui a eu les mêmes préjudices. Et cette dame-là, congolais-américaine, a porté plainte contre un ministre congolais qui est en fonction. Et c'est une autorité militaire. Mais pour vous dire que tout ce que vous devez faire, si c'est bon ou bien mauvais, un jour, ça va vous rattraper. Le raison en laquelle, moi j'ai eu la chance de rencontrer mon professeur, docteur Etienne Kézi Oumurumba. Il me dit, un État qui ne souhaite pas son propre loi et la constitution est appelé à être disparu.
Merci Emmanuel
Adoukol. Madame, la constitution.
On va prendre ce deuxième auditeur qui est en ligne. Hein. Lui, il est à Isangi, je pense. Gaston Bilambo, il est à Isangi. On va l'écouter.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. Le décès d'un détenu à Makala révèle la persistance des abus dans les prisons congolaises malgré les promesses des réformes. Tabassé pour simple possession d'un téléphone, ces drames illustrent l'ampleur des violations des droits humains. La dénonciation de la Fondation Bill Clinton relance les débats sur l'impunité dans les milieux carcéraux. Si le ministre de la Justice avait annoncé des réformes ambitieuses, leur mise en œuvre semble lente ou inefficace. Cette situation exige des enquêtes sérieuses, des actions exemplaires et une réelle volonté politique pour transformer les prisons en espace respectueux de la dignité humaine, comme le prévoient les standards internationaux.
Désiré Simbi.
Merci encore une fois, parce que maintenant on touche la question des réformes. Mm-hmm. La réforme, ce n'est pas amener des matelas à la prison. La réforme, ce n'est pas donner la nourriture à la prison. Mais la réforme, c'est un ensemble de mécanismes qu'on doit mettre sur pied pour que l'on puisse faire respecter les droits des détenus. Et ces mécanismes, comme nous disons, nous avons essayé depuis 2005, je signale, des premiers mécanismes, des comités de suivi, des lieux de détention, etc. Et plus tard, on a dit non, il faut mettre sur pied les textes. On a vu même les problèmes de formation du personnel, parce que ça entre dans tout ça. Il ne faut pas improviser du personnel à la prison ou dans l'administration pénitentiaire. Et la solution finale, c'est la réforme. Même les maisons carcérales, les prisons de toute la RDC, nous avons eu la chance de circuler peut-être, voir et réaliser des évaluations sur au moins une centaine d'établissements pénitentiaires. Et cela nous a amené donc à mettre sur pied d'abord la réforme, le cadre juridique, pour avoir la typologie des établissements pénitentiaires. Comment une prison doit être? Deuxièmement, nous nous sommes dit, voilà, le personnel qui doit être, comment on doit les recruter? Parce qu'on recrute souvent à la maison, lorsqu'une autorité est nommée, il amène son cousin aussi, etc., sans connaître les normes qui sont. Donc, le processus de recrutement, mais surtout aussi la formation avant l'entrée en fonction. Mais il ne faut pas oublier l'aspect aussi de leur gestion, la gestion de ce personnel. Donc il y a beaucoup d'aspects et ça nous a amené justement à mettre sur pied des textes qui permettent à ce qu'on y arrive. Les états généraux, comme l'a souligné l'un des co-débatteurs, étaient peut-être un espoir que cette fois-ci, on va mettre les structures sur place. Il y avait des recommandations. Les recommandations ont abouti à des textes qui sont bien élaborés jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit. Mais lorsqu'on arrive, on croit que donner la nourriture. Mais lorsque vous donnez la nourriture...
Selon le ministre de la Justice, toutes ces réformes certaines de ces réformes sont déjà en cours.
Il connaît, je crois qu'il a même ces textes à côté de lui. Alors, et comme nous avons dit, le problème, c'est, comme nous disons, la continuité de l'État. S'il y a eu des procédures ou des mécanismes qui ont été proposés, c'est de voir les experts dans le domaine, pas mettre un géographe devant un texte juridique des domaines pénitentiaires. Je l'ai souligné plusieurs fois, tous les juristes ne connaissent pas la matière pénitentiaire. Il y a des experts qui ont pris du temps pour connaître les systèmes des différents continents. Et là, nous vous disons en connaissance de cause, parce qu'il y a des experts qui ont été partout au monde pour voir quel est le système cohérent pour la RDC qui pourrait être efficace. Donc, aujourd'hui, nous vous disons, même si vous mettez des milliards...
Mais pour la RDC, c'est quel système?
Évidemment, nous avons pris le système franco-africain parce qu'il y a des systèmes quand même qui collent avec nos cultures, des systèmes qui collent aussi avec nos moyens. Et notre culture aussi, parce que la culture pénale aussi, dans certaines circonstances, ça permet que nous puissions concilier les modèles franco-africains sur le système pénitentiaire. Alors, c'est là, tant qu'on n'a pas mis la réforme, nous resterons avec les mêmes prisons. Nous allons décrier chaque jour qu'il n'y a pas de conditions de santé. Nous allons décrier le personnel qui n'est pas formé parce qu'il n'y a pas un cadre juridique pour les former et les avancer. Et finalement, nous allons crier des années et des années et nous demandons tout simplement que ces textes de mise en œuvre puissent être quelque chose d'avancé pour la réforme. Et je crois que si aujourd'hui ou demain ces textes sont signés, nous dirons voilà, ça c'est le décret Mutamba. Voilà comment les gens comme Bakajika et les autres étaient honorés. Je ne sais pas, bon, les autorités actuelles, qu'est-ce qu'elles veulent. Mais c'est ça, moi je crois. Mais sur le cas présent, parce que je sais que le directeur de Makala, je le connais très bien parce qu'il est passé entre nos mains par rapport à la formation et autres. Et c'est un bon monsieur, j'ai applaudi lorsque le ministre l'a nommé là-bas. Je ne crois pas qu'il arrive à donner des ordres pour violer de tels droits. Mais comme nous avions dit, il faut une enquête. Il faut une enquête pour qu'on arrive à établir les responsabilités et sanctionner. Parce que si on mène des enquêtes qu'on n'a jamais fermées, comme les gens disent, on ouvre mais on ne ferme pas. Et dans ces cas-là, tout le monde va commettre des mêmes faits parce que nous avons des cas passés qui n'ont jamais été sanctionnés ailleurs. Et je disais, les événements du début septembre, j'aurais souhaité voir un procès contre les personnes qui ont tiré sur les détenus. Je n'ai jamais entendu parler de ça. On a parlé des gens qui ont violé, etc. Mais ceux qui ont tiré sur les gens, ceux qui ont tiré sur les détenus, parce qu'il y a des règles même de l'usage de la force et l'usage des armes à feu en milieu pénitentiaire, c'est spécial. Et là, ce ne sont que les gens qui sont initiés en matière de l'administration pénitentiaire qui peuvent donner leur expertise. Donc voilà un peu ce qu'il faut pour que l'on puisse avoir non seulement des établissements qui répondent aux normes, mais aussi de personnels qui sont capables de protéger ces droits. Parce que le dernier aspect, c'est le traitement aussi du personnel. Circuler dans toutes les prisons, je ne vais pas vous donner les éléments, vous êtes des journalistes, circuler dans les établissements pénitentiaires, essayer de collecter certains comportements, vous allez comprendre que nous allons vraiment dans le mur s'il n'y a pas de réforme.
On va prendre ces derniers auditeurs qui nous appellent de Kinshasa. C'est ça, il est à Kinshasa. Voilà, on va l'écouter et puis on revient dans ce studio pour la suite de notre émission.
C'est Benny Massinga depuis Kinshasa. Je pense que c'est une honte pour un État déclaré démocratique depuis plus de 65 ans, comme la RDC. Si pareille déshumanisation se fait au centre-ville, par ricochet capitale du pays, comment tempérer ces cas sur l'étendue du pays? Donc, la sacralité de la personne humaine que l'article 16 de la Constitution garantit n'a plus d'aisance. Ou attendu que la prison est un enfer où on ne peut pas se communiquer. J'appelle à une justice équitable. Telle justice aussi pour le cas du policier Kabeya dont le procès est en cours.
À brève réaction. Jonas Tombella, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne. J'ai bien suivi le compatriote. Je partage parfaitement son point de vue. Ça revient à ce que je venais de dire tout à l'heure, que les prisons congolaises sont devenues de véritables zones de non-droit. Comme on peut le remarquer, le système pénitentiaire est à bout de souffle. Les gardiens sont en sous-effectif. Mal formés, mal payés, les prisons manquent de médicaments, de la nourriture, dans des conditions comme celle-là. Celle-là juge comment espérer réinsérer un détenu.
Mais, je pense ici, comme l'a dit tout à l'heure
Désiré,
mon prédécesseur, il faut, oui, comme l'a dit M. Désiré, et voilà, je pense que nous devons cette fois-ci commencer à réfléchir en termes de réforme du système judiciaire lui-même dans sa globalité.
Mais comment d'abord,
réduire, par exemple,
comment d'abord, Jonas Tombela, comment d'abord vous évaluez les annonces des réformes faites par le ministre? J'ai dit avant de parler, de faire des propositions, comment d'abord vous évaluez les annonces des réformes faites par le ministre Moutamba il y a quelques mois? Est-ce que ces annonces vous semblent suffisantes et crédibles face à la réalité de nos prisons?
Je crois que le ministre et tout ce que nous le connaissons comme énergie, je crois que en termes de théorie, il a de la bonne volonté de faire tout, mais en termes de pratique, jusqu'ici, nous attendons beaucoup de bonnes choses qui ont été promises à la communauté, qui, j'ai l'impression que la volonté politique est en train de s'effriter, et nous craignons que nous puissions chuter, et comme il y a aussi remaniement du gouvernement en l'air, est-ce qu'ils ont encore leur cœur à l'ouvrage? C'est ça ma crainte. Parce que maintenant, chacun est tenté d'être préoccupé par sa survie politique. Maintenant, le problème qu'ils doivent rendre au pays, ces réformes qui ont été promises par le ministre de la Justice, je crois que ça risque de rester d'être mort. Et comme on l'a dit Désiré tout à l'heure, chaque ministre vient, fait table rase, celui qui viendra fera encore table rase. Et nous irons de table rase en table rase et nous allons toujours crier les conditions de détention difficiles, inhumaines de nos compatriotes. Voilà autant d'éléments. Moi, je reste pessimiste. Je ne pense pas que la réforme réelle viendra quand on voit trop de spectacles qu'on a vu ces dernières semaines ou avant quand on a pris le pouvoir. Mais la suite des choses ne semble pas indiquer que nous sommes dans la bonne direction. La preuve est qu'on a quelqu'un venait de se faire tuer bêtement comme ça. En prison, qu'est-ce qui s'est amélioré là-dedans? Donc, je ne crois pas beaucoup à toutes ces réformes qui ont été promises parce qu'il n'y a pas de la volonté politique de faire mieux.
Alors,
il y a
toujours
la volonté de spectacle politique que nous sommes en train de vivre. Voilà.
Vous
c'est pour cette raison-là que je pensais qu'il faut beaucoup plus.
Allez-y.
Je vous écoute, madame.
Alors, je disais, vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile. Allez-y. Faites vos propositions, M. Tshombela.
Oui. Voilà, les propositions, je pense à la réforme de la justice dans son ensemble. Il faut réduire la durée de détention préventive, accélérer les procédures, éviter les emprisonner pour des faits ou des délits mineurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, investir dans l'infrastructure, construire de nouvelles prisons, réhabiliter les anciennes, améliorer les conditions sanitaires, et c'est indispensable. Trois, je pense aussi à former et motiver le personnel. On l'a dit tout à l'heure par M. Désiré, les agents pénitentiaires doivent être bien formés, bien traités et contrôlés pour éviter les abus. Il n'y a pas le contrôle pour éviter les abus. Et quatre, enfin, promouvoir les peines alternatives, et j'insiste là-dessus, il faut promouvoir les peines alternatives des travaux d'intérêt général, assignation à résidence surveillée, médiation pénale. Il existe des alternatives efficaces à l'incarcération pour le délit, les petits délits. Il y a tout ça qu'il faut exploiter en termes de réforme, et ça peut réduire le taux de gens qu'on envoie en prison parfois de façon arbitraire, parce que près de 60% des gens qui sont en prison dans la République démocratique du Congo, beaucoup attendent leur procès, peut-être qu'il ne viendra pas, et puis ils peuvent trouver même la mort.
Emmanuel Adoukol, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Alors, quelles devraient être les priorités en matière de réforme du système pénitentiaire, puisque nous parlons du respect des droits des détenus? Qu'est-ce que vous proposez, surtout sur les respects des droits des détenus, comme on l'a dit?
Rapidement, je proposerai de revoir les critères à l'obtention de libertés conditionnelles et le gaz présidentiel. En plus, il faut revoir les dossiers emblématiques tels que celui du journaliste Jacques Ndala, l'ancien ministre de Cabine Mondo Moussa, qui est encore le Norbert Rieye, un président d'un parti politique aujourd'hui, elle est comme un chégué au niveau de Ndolo, et les dénotes. En plus, il faut reconstruire dans la maison d'aller dans tous les paquets. C'est comme le ministre de la Justice avait préconisé, celui qui va aller en prison, c'est lui qui est condamné. Dans tous les pays, moi d'État à Brazzaville, là j'ai fait mon éthique, à Brazzaville, tu vas en prison, des gens qui vont en prison, des gens qui sont condamnés. Donc, il faut différencier à la maison d'aller et les prisons. Donc, il faudrait construire dans tous les paquets une maison d'aller pour ne pas envoyer les innocents qui vont en prison pour rien. Il faudra que les prisons accueillent des gens qui étaient condamnés. En plus, il faudrait distinguer entre exécutif et les judiciaires. Article 52 de la Constitution qui donne le pouvoir au gouvernement congolais d'initier un poursuivre judiciaire contre quelqu'un qui a détourné ou quelqu'un qui a commis l'infraction grave. Mais ce n'est pas un individu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que parfois un individu qui est dans le gouvernement, il négocie avec un magistrat, il arrête une personne, on envoie à Makala. Or, ce n'est pas un individu ministre ou bien général qui peut arrêter une personne. Donc, il faudrait, c'est le gouvernement qui décide pour entamer un procédure contre une personne qui a commis l'infraction. Donc, il faudra que maintenant, même le magistrat dans le côté, le magistrat aussi dans les côtés,
il faut conclure.
Parce qu'il suit beaucoup la politique, nous avons constaté qu'il soit arrêté. Oui, les conclusions, c'est-à-dire, il faut séparer le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Voilà.
Merci Emmanuel Adoukol. Désiré Simbi, président du groupe d'experts pénitentiaires de la RDC, quelles sont selon vous les mesures urgentes qui devraient être prises pour garantir la sécurité et le respect des droits fondamentaux des détenus dans les prisons congolaises?
Merci beaucoup pour cette conclusion que l'on doit mettre là. Je reviens sur ce que j'ai dit. La question de surpopulation, la question des rations alimentaires, les mauvais traitements, ce sont des conséquences. Il faut attaquer les causes. Et les causes résident dans cette réforme structurelle. L'urgence serait donc de créer la direction générale de l'administration pénitentiaire comme l'organe technique qui gère les prisons. Parce que le système actuel de gestion des prisons a perdu sa vitesse et nous avons vu toute l'analyse, c'est autour de cet échec, la perte de vitesse de l'organe de gestion des prisons. Il faut un organe. Et là, ça se trouve dans le texte. Parce que c'est là où on aura la gestion de tout le personnel, la gestion des droits de l'homme, se trouve là-bas. Deuxième chose, c'est au niveau du régime pénitentiaire. Je vous dis que la loi de 2023 a abrogé l'ordonnance 344 de 1965 qui portait régime pénitentiaire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un texte sur le régime pénitentiaire en RDC. Et il y a un décret qui devait donc être publié rapidement, signé, pour que l'on puisse mettre en application la loi de 2023, le régime pénitentiaire. Et troisièmement, c'est de voir la situation de personnel pénitentiaire. Non seulement la formation, mais surtout voir leur statut pour qu'ils soient dans leurs droits pour protéger les droits des détenus.
Merci Désiré Simbi. Jonas Tchombela, en 30 secondes, hein, votre mot de la fin.
Bon, notre mot de la fin, comme je le dis, je répète,
respecter les droits des détenus et ne pas faire preuve de faiblesse, affirmer la force d'un état de droit. C'est tout ce que nous demandons aux autorités congolaises.
Merci Jonas Tchombela, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine, Guy Maté, Étienne Lissoumbou et Bertin Kassiama. La mise en onde était assurée par Debs Vita, derrière les caméras, Jonathan Fonani, Clément Chimanga et Hervé Volkia. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net, mais vous pouvez aussi retrouver sur les comptes officiels de Radio Okapi, Instagram et TikTok, tous les temps forts de cette émission. Martin Sebouchangwe a supervisé le magazine, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.